Voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Maggie Marin. Ce soir, d'un commun accord.
Maggie Marin, vous êtes une figure incontournable de la danse française contemporaine depuis les années 80. Maggie Marin, danseuse et chorégraphe. Depuis le début de ces entretiens, nous n'avons pas dissocié les deux mots. On a dit de vous que vous pouviez remplacer n'importe quel danseur ou danseuse au pied levé. Et que vos plus fidèles danseurs également. Vous passez des heures à l'atelier à chercher. Les compositions viennent des restes d'un travail élaboré in vivo, entre les danseurs, l'un dans l'autre, l'un sans l'autre, l'un pour l'autre. Il reste des fragments de travail que vous réagencez. Chacun parle un peu de l'autre, de ce qui a disparu aussi. Chaque interprète peut dire que cette chorégraphie est un peu de lui, de vous, ou d'un danseur déjà parti ailleurs. Depuis bientôt 20 ans, vous pariez sur un travail en commun. Bonsoir, Maggie Marin.
Bonsoir.
D'un commun accord, ça vous convient, ce titre d'épisode ?
Un commun accord, c'est quelque chose qui se gagne de haute lutte, je pense. Donc, qui prend racine et qui prend vraiment place et pied sur du désaccord. Parce qu'il y a de l'exigence et qu'on n'est pas forcément d'accord sur beaucoup de choses. Donc, si on part d'une disconvenance entre nous, entre les êtres, on cherche à transformer cette disconvenance en intelligence, en fait, et à voir où sont les points aveugles des uns et des autres, parce qu'il y en a toujours. Donc oui, d'un commun accord, après beaucoup de désaccords, on peut arriver effectivement à qu'il ne soit pas un consensus mou, un compromis, une compromission, mais plutôt un réagencement, en fait, de la pensée de chacun avec le regard son propre regard qui est enrichi par le regard de l'autre.
Vous dites des danseurs, ils en savent autant que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça, c'est plutôt... Enfin, moi, j'en suis persuadée, mais le fait que je le dise, c'est dommage, en fait. Je le dis parce qu'on pense que celui qui est en face, en fait, le créateur ou le chorégraphe, le concepteur, aurait comme ça des clés en main que les interprètes n'auraient pas. Et moi, je ne sens pas du tout ça. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui se partage fort et que donc parfois j'apprends beaucoup d'un interprète qui me dira telle ou telle chose de la même façon que je peux aussi dire telle ou telle chose. Donc il n'y a pas ce rapport-là. On en sait autant, quoi. Ce sont des gens d'expérience. Peut-être je ne dirais pas ça avec des plus jeunes qui ont 20 ans. Encore que ceux de 20 ans apprennent aussi des choses qu'une personne mûre a oubliées peut-être.
Vous travaillez depuis parfois 30 ans, 20 ans, 10 ans. Vous tissez des longues fidélités avec les danseurs et les danseuses. Les interprètes, vous les appelez les interprètes.
Oui, on tisse, on file ensemble, je veux dire, cette fidélité qu'on ne fait, on fait pas exprès de la filer. D'ailleurs, elle se file d'elle-même parce que je pense qu'on est heureux de se côtoyer et de travailler ensemble.
Quand l'un des danseurs vient à disparaître, à mourir, est-ce que la mort fait place nette ? Qu'est-ce qui se passe dans une compagnie comme la vôtre ?
Ben, c'est une grosse absence, oui. C'est une grosse absence, mais qui, par son absence très forte, finalement, devient plus présente que la présence de ceux qui sont là, enfin, en tout cas, qui accompagnent tout le travail qui suit. Mais c'est jamais posé comme un sanctuaire. C'est toujours une partie de la vie, la mort. Donc, on vit avec et je pense que ça nous rend encore plus intenses les moments de vie qu'on partage.
Il vous arrive de penser à une danseuse ou un danseur avec lequel vous avez travaillé longtemps et qui a disparu ? Vous le revoyez quelquefois sur scène ?
Oui, c'est quelqu'un qui m'accompagne toujours. C'est Christiane Glick, en fait, avec laquelle j'ai commencé à travailler. Et on se connaissait depuis très très longtemps. Et beaucoup de la recherche jusqu'à sa disparition d'ailleurs, mais en particulier dans Maybe, au tout début, quand on commence à avoir le culot de faire des pièces, en fait, on a comme ça une espèce de complice très forte qui nous aide, en fait, et avec laquelle on partage beaucoup. Et je pense que beaucoup de Maybe a été travaillé avec Christiane. Donc c'est quelqu'un qui... Je la revois sans arrêt sur le plateau quand je vois les autres, mais ça, c'est vrai de tous les personnages de Maybe, en fait. En fait, les figures sont tellement dessinées que celui qui a porté la figure, en fait, existe au travers des autres aussi. Donc, c'est jamais l'interprète qui est présent, c'est toujours la figure qui nous arrive.
Vous aimez qu'un interprète s'efface, hein ? au profit de ce qui se passe au présent sur scène, un peu.
Oui, enfin, je pense que c'est pas moi qui aime ça. Je pense que c'est juste que c'est comme ça, en fait. À part quand on fait un travail autre, mais dans le travail de théâtre et de danse, l'interprète, en fait, est vraiment un lieu de passage pour quelque chose d'autre que lui-même. Et plus il laisse cette chose exister, moins il fait barrage avec lui-même, et plus ça existe, en fait. Ça se sent tout de suite, ça, quand quelqu'un entre en scène, si c'est lui et son moi qui arrivent pour se montrer, un tant soit peu, même avec beaucoup d'intelligence parfois, ou bien s'il y a quelque chose d'autre qui est interprété, en fait. C'est un interprète, donc ça passe par lui. C'est grâce à lui que les choses adviennent. Donc il a une forte responsabilité, et c'est ça un bel artiste aussi. Mais c'est jamais lui en tant que personne ou en tant que moi, en fait. Moi, artiste accompli, toutes ces choses-là, je trouve qu'elles encombrent plutôt qu'autre chose.
Et d'ailleurs, les interprètes de la compagnie Maggie Marin disent « Maggie Marin nous empêche un tout petit peu de trouver d'avoir des tics, des choses comme ça. Elle nous donne des tas de choses à faire. Elle nous oblige comme ça à nous défaire de nous-mêmes. Énormément de contraintes dans le travail. »
Oui, c'est vrai, parce que c'est très difficile de ne pas penser à soi quand on fait quelque chose et d'essayer de se trouver bien ou mal, d'avoir déjà un jugement sur ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est en train de le faire bien ou mal. Donc pour éviter de se confronter à ces choses-là, on passe, c'est vrai, par... Mais je fais ce travail moi-même, en fait. J'ai mon problème aussi avec ça, c'est-à-dire, est-ce que la pièce que je vais faire va être réussie, est-ce qu'elle va pas être, est-ce qu'elle ceci, est-ce que cela, est-ce que je mérite de le faire. Enfin, il y a un tas de choses qui passent dans la tête. Et le mieux, c'est de s'occuper à autre chose à ce qu'on est en train de faire, justement, pour éviter que ces pensées viennent embrouiller, en fait, ce qu'on est en train de faire.
Vous travaillez donc à plusieurs, mais l'œil qui observe, qui retient ce qui sera gardé, c'est vous.
Au départ, non, c'est même multiple, en fait, ce regard, puisque d'autres... on ne travaille pas tout le temps, tous ensemble, donc au départ, enfin, ce sont des propositions individuelles à deux, à trois, donc on est toujours plusieurs à regarder. Donc c'est le regard de ce premier public, en fait, qui est constitué par les interprètes et moi-même, qui renvoie en fait ce qu'il a vu aux autres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, une fois qu'on a travaillé en recherche, en fait, il y a un moment donné où il faut faire des choix. Et à ce moment-là, moi, je suis à l'extérieur et c'est moi qui organise les choses parce qu'eux ont aussi à faire beaucoup sur le plateau. Ils ne peuvent plus être regard extérieur, quoi. Donc à ce moment-là, oui, je commence à écrire, en fait.
Vous cherchez une sorte de coquille vide, ça, une structure, une fondation assez abstraite. Après, tout le reste peut bouger. Vous travaillez tout le temps jusqu'au bout.
J'ai travaillé en amont sur une structure abstraite, en fait. Je travaille sur des polyrythmes, sur des choses assez techniques, en fait, sur des durées, sur des rythmes, des choses comme ça, que je mets de côté, en fait. Et ça me donnerait peut-être une sorte de composition sans rien qui soit composé dedans. Enfin, des espèces de groupes, d'ensembles ou de fragments qui peuvent s'aménager entre eux librement par la suite. Sauf que ces fragments, en fait, il n'y a rien dedans. C'est comme si j'avais des plans de cinéma dans lesquels il n'y aurait aucune situation. Alors, des lieux et des durées. Je me dis, je vais faire, je sais pas, 10 plans séquences de 5 minutes, et puis, je vais faire 120 petites images de 3 secondes. Alors, je me donne surtout des contraintes de durée. Mais je ne le présente pas, ça, au départ. Je le garde pour moi. Enfin, j'en parle un peu, mais on n'est pas assujetti à ça. Et donc, quand on commence à travailler, ce sont des propositions très libres au niveau du temps, des durées, qui ne rentrent pas dans ce cas de figure de ce schéma-là que je prépare avant. Et c'est seulement après, une fois que les matières ont été développées par les uns et les autres et qu'on commence à avoir beaucoup de dépôts, en fait, que je regarde si c'est adéquat, en fait. Et souvent, j'aménage ce plan de base sur ce qui s'est passé. Donc les durées sont plus longues, plus courtes. Voilà, c'est seulement après coup que je remets cette espèce de chose abstraite sur quelque chose de très vivant et de très vécu, en fait, et de très... Donc où il y a des affects, où il y a du récit, où il y a des tas de choses, de la chair, en fait. C'est dans la composition, en fait, plutôt, finale, que je me sers de ces choses.
Ça n'est pas arrivé tout de suite, parce que Maybe, vous avez écrit, hein, conduite, une... pareil pour Cendrillon, c'était très écrit, vous avez été très précise avec les danseurs et les danseurs de l'opéra. Quand est-ce qu'est arrivé ce travail à partir du rythme ?
Ça a pris assez longtemps, en fait. Je pense que jusqu'en commencement, en fait, les années 2000, je pense. Jusque-là, la composition se faisait un peu chronologiquement. Ça veut dire on commençait par quelque chose. Il y avait toujours ce temps de recherche, mais je commençais à poser un début, puis une suite, et puis encore une suite, et puis encore une suite. Et la pièce se construisait, en fait, au fur et à mesure des choses qui étaient découvertes, trouvées, inventées. Alors qu'à partir de l'année 2000, ça s'est éclaté totalement. J'ai travaillé par fragments, en fait, plus ou moins longs, et en me réservant la possibilité du montage à la fin. Donc je ne travaille plus du tout. Enfin, ce n'est pas toujours vrai, d'ailleurs, parce qu'il y a des fois où ça ne s'est pas passé comme ça depuis. Mais en général... On travaille sur des fragments, en fait, des morceaux, des planches. J'ai envie de parler comme au cinéma, en fait. Des plans courts, des plans longs. Et puis, c'est seulement à la fin que je travaille la composition finale à partir de tout ce qui a été, tous ces extraits, toutes ces choses qui ont été trouvées en amont.
Parfois, vous dites, je suis obligée de passer par la ruine, par le fait de défaire. Quel spectacle est passé par là ?
Beaucoup de choses. Je pense aux applaudissements ne se mangent pas, par exemple, sur lequel on a travaillé 2 mois et demi pour finalement tout démolir et repartir, soi-disant à partir de zéro, mais on repart jamais à zéro. On a quand même travaillé 2 mois et demi, donc il y a des choses qui se sont qui ont été là, mais qui étaient masquées par un tas d'autres choses inutiles, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à ce qui est à tamiser, en fait, les choses. C'est ça, le temps est très important, parce que on se trompe, en fait. On travaille, on se trompe, on n'arrête pas de se tromper. Mais dans ces erreurs, en fait, il y a quelque chose où on cherche une essence, enfin, quelque chose qui... un fil rouge, quelque chose qui, tout à coup, bouleverse un peu, voilà. Moi, c'est ça que je cherche aussi dans le travail, c'est qu'à un moment donné, quelque chose soit tellement de l'ordre du tellurique, en fait, de l'ordre de la... du tremblement de terre, en fait. La présence de quelqu'un, l'action de quelqu'un, le mouvement de quelqu'un, la voix de quelqu'un. Et donc ça, ces moments-là, ils sont rares. Donc on essaye de les chercher.
Vous dites également aimer les danseuses terrestres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, les danseuses terrestres ? On est du côté du pas, du...
Non, on est du côté du son. On est du côté des règles. On est du côté des accouchements, on est du côté de la femme, quoi. Donc une femme qui, avec tout ce que ça a de vivant et de... C'est pas une femme parfumée.
Organique.
Oui, c'est une femme organique, oui, voilà, c'est ça. Enfin, l'organique de la femme. Donc c'est peut-être aussi en rapport avec la danse classique qui, en fait, efface totalement les seins, les rondeurs, tout ce qui est un peu dérangeant, en fait, dans une femme qui devrait être une espèce de chose totalement éthérée. Oui, c'est vrai que là, j'y tiens beaucoup.
Il est une femme qui vous accompagne depuis bien longtemps, c'est votre mère, qui a, je crois, bientôt 100 ans, oui. Et qui... Alors, vous l'avez vu coudre enfant, et aujourd'hui, elle continue à coudre, enfin, elle a longtemps continué à coudre pour vos spectacles, pour Maybe, je crois, d'autres encore.
Oh, elle m'a aidée jusqu'il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, elle a 100 ans, elle aura 100 ans bientôt, mais je crois que jusqu'à il y a une dizaine d'années, elle cousait encore quelques costumes de la compagnie, oui, oui. Oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue, beaucoup.
Et son regard alors sur les costumes que vous choisissiez avec Montserrat Casanova, sur C'était très différent, j'imagine, de ce qu'elle avait pu coudre elle-même plus jeune.
Bien sûr, oui, mais elle était toujours étonnée qu'elle a fait que des costumes neufs, elle. Quand, donc, du coup, quand on faisait des choses, des costumes un peu vieillis, comme ça, elle disait, mais il faut le salir, ça. Enfin, elle ne comprenait pas pourquoi il fallait salir des costumes. Ou...
Plâtre.
Oui, exactement, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Mais en fait, elle... C'était surtout ça, en fait, qui l'a gênée un peu. C'est que, comme il y aurait du gaspillage, en fait. Voilà. C'était une femme, quand même, de l'économie. C'est une femme de l'économie.
Elle vous dit quand elle aime ou quand elle n'aime pas ?
Elle aime toujours.
Elle aime toujours. Et ce travail avec Montserrat Casanova, la costumière, pourriez-vous nous en parler ?
Oui, ça a été une très belle rencontre aussi avec Montserrat. On s'est rencontrés dans les années 80 aussi. Ben, très inventive, très aussi bricoleuse. Donc elle m'a aidé beaucoup à réaliser des choses impossibles en fait. Parfois j'avais des images de costumes presque... Enfin, j'aurais même pas... J'avais pas l'idée de comment faire, en fait. Et elle trouvait les solutions. Elle a souvent trouvé des solutions. Je pense à Eden, par exemple, les costumes d'Eden, qui sont quand même très beaux, je trouve. Elle m'a beaucoup aidée à réaliser des choses comme des rêves, en fait, qu'elle rendait possible.
Pourriez-vous décrire les costumes d'Eden ?
Les costumes d'Eden, en fait, c'est inspiré de Jérôme Bosch, du triptyque. Et je voyais des gens nus à la façon d'une... picturale, d'une façon picturale, en fait, pas le vrai corps nu, mais plutôt comme des corps nus peints. Et elle a eu cette idée de faire un collant académique, en fait, avec les mains, les doigts des mains, les doigts des pieds et les visages comme des masques avec des vrais cheveux par-dessus, ce qui fait que quand on les regarde, en fait, on voit effectivement des êtres nus, mais légèrement, enfin, pas réels, quoi. Et ça, c'était, je trouvais ça très beau, cette façon d'arriver à faire ce travail-là.
Les lieux communs pour créer, c'est important ? Des lieux, un espace de travail.
Oui, évidemment, bien sûr.
Vous avez parlé du temps, de la durée.
C'est même très important, oui, effectivement.
Vous étiez à Créteil pendant un certain temps, et puis ensuite, vous avez été du côté de Lyon à partir de 98, hein, dans un quartier aussi, dans ce qu'on appellerait une cité. Alors c'est une longue épopée, je crois qu'à un moment vous aviez décidé d'être tout en haut de la tour, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire il y avait un projet de réhabiliter en fait une tour dans laquelle il y avait des habitants, mais de plus en plus de gens partaient aussi de ce quartier qui était un quartier en difficulté, quoi. Et donc parallèlement aux habitants, en fait, l'idée c'était de mettre dans cette tour un restaurant d'insertion, des artistes plasticiens d'ailleurs, des musiciens et donc une compagnie chorégraphique, enfin, des artistes. Et donc, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai été intéressée pour m'inscrire dans ce projet et c'est devenu donc un projet de centre chorégraphique national au sein de ce quartier, dans cette tour. Donc, on devait avoir un studio en haut de la tour et une salle de spectacle en bas de la tour, en plein quartier. Bon, après, c'est tombé à l'eau, cette affaire-là. Mais, en tout cas, est resté au bout de beaucoup d'années, puisqu'on est arrivé en 98, et le centre chorégraphique de Rieu a vu son inauguration en 2006. Donc, pendant 8 ans, on est resté dans une salle d'une école maternelle, dans laquelle on a très bien travaillé, d'ailleurs, hein. Avec beaucoup de difficultés quand même pour rencontrer les gens qui habitent autour, pour que petit à petit des liens se fassent avec le centre social, les écoles. Donc ça a été assez long. Mais néanmoins, voilà, ça a été un moment très 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 fort aussi de notre travail. Finalement, on a quand même réussi à poser dans cet espace bétonné un centre chorégraphique national dans lequel je pense aujourd'hui, en tout cas quand j'en suis partie, il y avait déjà beaucoup de gens de la ville et du quartier qui savaient pouvoir y venir et voir des choses qu'ils n'auraient pas vues autrement.
Vous avez l'impression que vous avez pu un peu décloisonner les vies, les espaces de vie, les imaginaires ?
Je pense que des espaces comme ça, il faudrait les multiplier en fait. Je pense que par rapport aux enfants, aux scolaires, aux ados, et même aux jeunes adultes, en fait, Et par rapport aux mères aussi, les pères, on les a peu vus. Mais les mères qui amenaient leurs enfants, je pense que c'est au quotidien, en fait. C'est de l'infiniment petit qui se passe. Mais avec du temps, oui, on arrive effectivement à renouer, en fait, normalement, disons, entre des artistes et puis une population qui est quand même dans grande peine.
La rencontre s'est opérée.
Je pense que le lieu a permis une rencontre importante pour beaucoup de ces jeunes enfants, parce que ça leur a ouvert en fait quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas avant. Donc ça, c'est, je pense que la danse aussi pour moi a été une fenêtre ouverte vers quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et j'espère que ce lieu aura servi à cette rencontre-là avec la poésie, en fait. On peut dire ça comme ça, c'est un peu grandiose, mais tout à coup de découvrir que son corps, sa voix, sa parole, la musique, enfin, ce sont des choses qui aident à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc là, je pense qu'il y a eu une rencontre importante pour ces jeunes enfants, adolescents, adultes aussi, à ce moment-là. Et après, il y a plein de petites rencontres individuelles qui sont des vrais bonheurs, des vraies joies.
Durant cette période-là de votre travail, Magui Marin, même un peu plus tôt, le monde entre davantage, hein, affecte votre travail. C'est tout à coup la guerre de nouveau en Europe, la guerre en ex-Yougoslavie. Cette guerre vous interpelle, notamment le siège de Sarajevo, qui peut-être fait écho également au siège de Madrid qu'avaient pu vivre vos parents. 4 ans de bombardements incessants, sans échappatoire, de 1992 à 1995. Là, vous avez un acte d'engagement assez fort. Quel est-il ?
Ce qui se passe, c'est que moi, je suis à Avignon, en fait, au Festival d'Avignon en 1995, et que c'est juste au moment où il y a le massacre de Srebrenica. Et il y a là François Tanguy, Ariane Mnouchkine et d'autres qui se réunissent pour essayer d'infléchir, en fait, une politique, en tout cas française, pour ne pas laisser faire. Donc je me trouve en face de ça, en fait. Et quand la proposition de démarrer une grève de la faim pour essayer de sensibiliser les politiques à cette chose urgente, ben je peux pas reculer. Voilà, c'est tout. C'est ce qui m'arrive à moi. Simplement, ça se trouve sur ma route et je dois en faire quelque chose puisque c'est moi que ça questionne.
C'est un acte de solidarité à ce moment-là. Vous le ressentez comme ça?
Oh, plus que
plus
ça,
que
je
ça.
Pense.
Une oui. Grève de la faim, vous cassez l'outil pour une part. Vous êtes danseuse, chorégraphe.
Non, je n'ai pas senti ça comme ça, non. Pas comme casser l'outil, mais je dis plus fort que ça parce que c'est plus que. Enfin, la solidarité ne suffit pas, en fait, c'est ça. Il faut. Enfin. Après, on n'est pas toujours à la hauteur, mais je pense qu'on devrait s'engager beaucoup plus devant des choses qui nous ébranlent et qu'on ne devrait pas laisser faire, en fait. Voilà, et on devrait être plus nombreux. Après, ce qui est toujours un peu étrange, c'est qu'on a besoin de vedettes, en fait, pour interpeller les choses, et qu'on a toujours besoin, on recherche, en fait, toujours des gens connus pour sensibiliser, mais c'est un peu triste, en fait, ça. Ça devrait toucher plus de gens, y compris. Enfin, parfois, quand ce sont des gens inconnus, on en a beaucoup moins d'écho.
Mais une grève de la faim, c'est aussi la souffrance qui passe par son propre corps. Tout à coup, vous pensez que la danse est inutile ?
Je n'ai pas senti comme une souffrance, vraiment. Ce n'est pas tellement douloureux, au début, en tout cas. Et puis, on était très entourés aussi. C'était plus... c'est compliqué, c'est difficile, enfin, de s'engager dans ça... J'ai jamais pensé ça comme un sacrifice de ma personne, parce que d'abord j'avais jamais envisagé de mourir. J'avais des enfants, donc il s'agissait pas de les abandonner, et j'ai pris ça plutôt comme un grand jeûne, en fait. Mais je l'ai pas senti difficile, en fait. Je peux pas dire mieux que ça, parce que ça m'a semblé particulièrement léger, quoi. Je ne suis pas arrivée à un point de... Je pense que j'ai dû faire une grève de 28 jours ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'on a des réserves et que jusqu'à ce moment-là, le corps ne demande pas, en fait, ne réagit pas vraiment, en fait. Donc ça veut dire qu'on pourrait moins manger, en fait, qu'on s'en porterait pas plus mal.
Est-ce que cette action vous a semblé utile, au final ?
C'est important, à des moments, de faire des signes, même s'ils sont un peu symboliques, de faire des signes d'intolérance, en fait, des choses qui se passent, c'est important. Donc dans ce sens-là, oui, donc c'est un ensemble de choses, mais je pense qu'Ariane était beaucoup plus, dans ses textes, dans sa façon d'interpeller les politiques, dans la mise en place même de ces relais qu'il y avait avec Sarajevo, avec la radio, on se parlait avec les gens qui étaient à Sarajevo, et puis ça a mené un tas de gens à la cartoucherie. Enfin, tout ce dispositif-là a joué son rôle, mais je pense que c'était surtout Ariane Mnouchkine et tous ceux qui nous entouraient qui ont été assez forts, quoi, pour le mettre en place.
La scène est un espace politique, mais la politique se joue aussi en dehors de la scène, vous l'acceptez. Et d'ailleurs, vous allez en dehors de la scène, vous vous engagez en dehors de cette scène politiquement. Peu à peu, dans votre travail, la parole est de plus en plus présente. Par exemple, dans Ramdam, on entend bien aussi le rôle de cette parole. Dans Maybe, c'était peut-être une parole qui avait une fonction. C'était une parole qui était un petit peu opérateur d'affect, de demande d'agressivité. Puis peu à peu, la parole engage, elle demande une réponse. Vous vous saisissez de cette parole-là. C'est de plus en plus simple pour vous, dans ces années-là, de vous saisir de la parole ?
Ben oui, à partir de 91, oui, avec Cortex, je pense, moi, comme je disais hier, en fait, sur la pièce Cortex, en fait, on a commencé à oser décrire le monde qui est autour de nous. Et puis tout à coup, de pouvoir faire des phrases soi-même, sans complexe, et puis petit à petit s'emparer des phrases des autres, de la littérature, et porter ces textes dans le travail. Oui, je pense que c'est très important, cette chose-là. Cette capacité à se dire j'ai le droit.
C'est une victoire.
Oui, d'une certaine façon, c'est une victoire contre soi-même, ou en tout cas contre la normalité dans laquelle, ou par quoi on a été construit. Je crois qu'il nous interdit beaucoup de choses parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce que je n'ai pas fait d'études universitaires. Donc je crois qu'on se brime soi-même, en fait, par le monde qui nous entoure, et de reprendre main, en fait, sur sa propre pensée et l'expression de cette pensée. Dans des rencontres, des réunions, et sur le plateau, a fortiori. Oui, pour moi, c'est une victoire. Oui.
Merci, Magui Marin.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Magui Marin. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jordan Robert, réalisation Laurent Polré, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.